J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché de la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. L'extrait que je viens de citer est issu de la quatrième de couverture de l'essai « King Kong Theory » de Virginie Despentes, célèbre auteure féministe contemporaine. Vous a-t-il heurté ou même choqué? Si oui, pourquoi? J'ai peut-être une réponse à cette question. Virginie Despentes a utilisé des termes considérés comme offensants et péjoratifs, au lieu d'en utiliser des neutres et non offensants. Elle ne souhaite donc pas adoucir ses propos pour éviter de heurter. Elle ne les adoucit pas non plus pour ne déplaire à personne. Elle ne dit pas ce que chacun veut entendre afin de susciter l'attention sélective de son destinataire. Bref, elle n'est clairement pas politiquement correcte. Mais qu'est-ce que le politiquement correct? Si je devais le schématiser, je tracerais simplement une droite. À l'une de ses extrémités, j'inscrirais « ne rien dire », à l'autre « trop en dire ». Et au milieu, règnerait en maître le sens de la convenance et la bien-pensance. Ce qu'il convient de dire, de faire et même de penser. C'est donc ça, le politiquement correct. J'imagine que vous l'avez deviné, la citation que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui n'est autre que celle d'Elisabeth Badinter. Il faut apprendre à lire et résister au politiquement correct. Mais pourquoi y résister? Laissez-moi vous donner un indice. Les fleurs du mal, de Baudelaire, Madame Bovary, de Flaubert. Accusés, l'un pour offense à la morale publique et religieuse, l'autre pour outrage à la moralité publique, religieuse et aux bonnes mœurs. Ces œuvres, si célèbres encore aujourd'hui, ont été censurées, car considérées comme politiquement incorrectes. Le politiquement correct mènerait donc à la censure, qui n'est autre qu'une atteinte à la liberté d'expression. Voilà pourquoi, selon moi, il faut tenter d'y résister. Après avoir évoqué le politiquement correct, qu'en est-il du fait d'apprendre à lire? Je pense qu'il ne s'agit pas du fait d'apprendre à associer des lettres pour créer des sons, parce qu'il est clair qu'à 6 ans, en apprenant à lire des phrases telles que « Belot fait du vélo », aucun enfant ne s'imagine qu'il est en train de recevoir un outil nécessaire pour accéder à la liberté. Car oui, un livre est un outil de liberté. Mais ça, ce n'est que plus tard que les jeunes le comprennent. En lisant avec généralement beaucoup d'enthousiasme ce que l'on appelle les incontournables, ces livres auxquels on ne trouve aucun attrait, ni quand le professeur de français en parle, ni quand on les a entre ses mains. On se demande bien souvent, mais pourquoi? Pourquoi ces livres? Pourquoi Molière? Pourquoi Shakespeare? Pourquoi Racine? On ne peut pas dire que les aventures d'un coureur de jupons, que le récit d'un maure qui tue son épouse par jalousie, ou que la maudite histoire de la belle-mère éprise du fils de son époux soit particulièrement palpitant. Du moins pour ceux qui ne décodent que ce qu'ils voient. Victor Hugo a dit un jour « Il faut donner ou rendre le goût pour la lecture à la jeunesse. Il faut cultiver en elle le désir ardent d'apprendre à lire entre les lignes, car le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. » Oui, car c'est aussi cela, apprendre à lire. C'est apprendre à lire entre les lignes. Si je reviens aux œuvres classiques, qualifiées d'incontournables citées précédemment, à savoir Don Juan, Othello et Phèdre, je peux parler du combat raison-passion. Ce combat est toujours présent aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Mesdames et messieurs, tout le monde ou presque connaît le dilemme de la superbe paire de chaussures au prix exorbitant, non? Lire entre les lignes nous permet donc d'envisager notre quotidien, même dans sa dimension la plus banale. Prenons un autre exemple de la littérature du XVIIe, les fables de La Fontaine. Prenons le corbeau et le renard, par exemple. Des animaux qui parlent entre eux. Quoi de plus innocent et enfantin? Peut-être que certains se sont dit que le corbeau était un peu grossier de parler la bouche pleine. Mais mis à part ça, comme chacun le sait, chaque fable de La Fontaine délivre une morale, explicite ou non. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais n'y a-t-il pas plus que ça ? parce qu'il est vrai que lire simplement une fable de La Fontaine n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour vous et moi. À travers ces animaux, utilisés pour contourner la censure, pour véhiculer des idées, ou pour peindre une satire sociale comme c'est le cas ici, il y a donc bel et bien un message dont il faut reconstruire le sens. Sans aucun doute, politiquement incorrect pour l'époque. Car en effet, critiquer les membres de la cour royale ou du clergé sous Louis XIV était impensable, voire même risqué. Lire entre les lignes, c'est ce qui nous permet d'atteindre le ou les messages politiquement incorrects. Dénicher l'implicite nous forge donc un esprit critique. Madame Bovary, de Flaubert, en est un parfait exemple. Au moment de sa publication, le roman était considéré comme tout à fait politiquement incorrect. Mais Madame Bovary, c'est le récit d'une vie, non ? De la vie d'une femme qui a des rêves, des ambitions. Quoi de politiquement incorrect là-dedans, me direz-vous ? Pour l'époque, sans aucun doute, la relation qu'elle partageait avec son mari. Une flamme domestique. Mari qui avait une conversation plate comme un trottoir de rue. Qui traduisait l'ennui, la désillusion. Elle rêvait d'une vie, également ses relations extra-conjugales, car elle rêvait d'une vie empreinte de passion et d'extase, chose que le petit médecin de campagne ne pouvait lui donner. C'est pourquoi elle se répétait « j'ai un amant » en se délectant de cette idée. Mais n'y a-t-il pas plus que ça ? Ce livre serait-il devenu un tel chef-d'œuvre s'il n'y avait eu que ça ? Probablement non. Et en effet, en lisant entre les lignes, on peut saisir une critique subtile de la bourgeoisie du XIXe siècle. Heureusement, les temps changent, et les livres aussi. La mentalité des auteurs, surtout. Avant, il était impensable d'écrire ce genre de propos, ce genre de satire sociale. C'est pourquoi des romans tels que Madame Bovary ont fait scandale. Aujourd'hui, les essais politiquement incorrects et les romans à titre choc ne se font plus si rares. N'est-ce pas Virginie Despentes ? N'est-ce pas Michel Houellebecq ? N'est-ce pas Éric Zemmour ? Victor Hugo a également dit « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. » Cette citation illustre parfaitement selon moi que la lecture est la base du développement humain. Elle procure un moyen d'évasion à ceux qui cherchent à se détendre, des connaissances à ceux désireux de s'instruire et bien souvent, de véritables pistes de réflexion. En d'autres termes, un livre est polyvalent. Et bien sûr, c'est un outil de liberté accessible à tous, à tous les chanceux ayant appris à lire. C'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, je pense que oui, il faut apprendre à lire et résister au politiquement correct, pour une question de liberté. Et bien sûr, la liberté d'une majorité est aussi la liberté de celui qui pense différemment, qui a envie de l'exprimer différemment, même si cela nous parvient à nous, lecteurs, de manière politiquement incorrecte. Voltaire, d'ailleurs, a dit « Je déteste ce que vous dites. Je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire. » Je me permets d'invoquer, une fois encore, et pour compléter Voltaire, Virginie Despentes. Il y a une forme de force qui n'est ni masculine ni féminine, qui affole, impressionne, rassure, une faculté de dire non, d'imposer ses vues, de ne pas se dérober. Merci. Aujourd'hui, les doutes ne comptent plus. Tout le monde a son opinion. Albert Camus. Aujourd'hui, les doutes ne comptent plus. Tout le monde a son opinion. D'accord. Ça a forcément un lien avec la manière dont je viens de clôturer mon discours. En effet, j'ai clôturé en le disant qu'il y avait une liberté pour une majorité. Pour celui qui pense différemment, qui a envie de l'exprimer différemment, même d'une manière politiquement incorrecte. Donc oui, je peux dire que tout le monde a son opinion. C'est une liberté d'avoir son opinion. Parler de doute pour une adolescente de 17 ans, eh bien, je ne dirais pas que c'est trop facile, mais c'est très actuel, on va dire. On se cherche encore, énormément. Mais je ne vais pas parler de moi. Je vais plutôt dire que cette phrase, pour Albert Camus, est tout à fait juste. Quelqu'un qui défendait ses idées, qui n'avait pour idée que défendre son opinion à travers l'écriture. Il prônait la révolte intérieure Tout ça pour affirmer son opinion. Merci de m'avoir écouté.